Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous propose que nous fassions deux lectures. La première se fera dans, nous allons la faire, dans le livre, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, s'il vous plaît. Alors, Jérémie, chapitre 29, et le verset 11, ou à partir du verset 11, quelques lignes. Alors, je rappelle, livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alors, imaginons quelques instants que, et c'est la réalité, que Dieu s'adresse à nous, personnellement, ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, le Seigneur, pour nous encourager, pour nous réconforter? Eh bien, voilà. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, de te donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Voilà, ce sont des paroles merveilleuses et formidables. Ce ne sont pas quelques lignes qui sont consignées dans un livre de littérature toute simple, classique, mais ce sont des paroles qui, lorsqu'elles sont saisies, eh bien, avec la pensée de l'Esprit de Dieu, eh bien, peuvent toucher, bouleverser nos cœurs et nos vies. Et simplement, avant de lire la seconde lecture, eh bien, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous, et particulièrement, si vous me permettez de le dire, peut-être pour ceux qui sont en questionnement, ceux qui sont dans la perplexité de leur vie, qui tournent des regards inquiets à droite et à gauche en disant ou en pensant qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de remède, et qui, quelque part, sont à deux doigts de désespérer de leur existence, de leur vie. Alors Dieu, nous pouvons peut-être le dire de cette manière, Dieu nous répond, et il nous dit tout simplement, « Je connais les projets. » Je connais. Et c'est bien la différence avec nous, qui ne connaissons pas grand-chose de notre avenir. Alors on connaît forcément notre passé, il est inscrit maintenant, on n'y changera rien à notre passé. On peut pleurer sur notre passé, on peut être heureux de la vie que nous avons finalement eh bien, traversée jusqu'à maintenant, heureux, malheureux, avec des souvenirs, des albums photos, enfin toutes sortes de choses qui nous projettent quelques instants, eh bien, dans ce qui a été notre cheminement auparavant. Mais Dieu dit, je connais les projets. Et cette connaissance, eh bien, elle est sensible et il veut la partager avec nous. Je connais les projets. C'est-à-dire que nous vivons notre présent. Alors, on est en train de le vivre maintenant. Voilà. Que sera-t-il dans deux secondes, dans une minute? Enfin, je pense qu'il ne va pas y avoir de grands changements, rassurez-vous. Mais toujours est-il que nous sommes là installés, que nous sommes venus à l'écoute de la parole de Dieu. Mais tout cela fait partie, finalement, eh bien, de notre existence. Et le temps est fugitif, hein. Il passe très très vite, l'instant qui passe. Et il y a beaucoup de réflexions sur le temps passé, sur le temps présent. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, et qui peut nous dire, « Moi, je connais ce que sera ta vie demain, dans 8 jours, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. » Puis, au-delà, naturellement, hein, Il le sait, Dieu. Votre Père sait. Vous savez où c'est dans le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui dit cela. Ne vous inquiétez de rien, parce que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, tout ne nous est pas dit de A à Z. Ça vaut mieux. Parce que, quelque part, si on savait tout de notre vie future, peut-être qu'on serait encore plus angoissé ou complètement angoissé, je ne sais pas, hein. Mais je connais. Et Dieu nous rassure, parce que si quelquefois nous avons de grandes appréhensions, des craintes, si nous vivons dans le tracas ou l'inquiétude permanente, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont dévastés par, l'incertitude. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on est, on peut avoir des incertitudes, hein, quand on voit comment les choses fonctionnent, comment elles tournent. Mais en tous les cas, nous avons quelqu'un en qui nous pouvons nous confier, qui nous dit « mais moi je connais les projets ». Et ces projets, il voudrait bien nous inviter à les prendre en considération et à rentrer dans ces projets. La vie est faite que de projets. Quand on est jeune, on va à l'école, à différents stades. On apprend un métier, on a un projet professionnel. Sur le plan sentimental, on peut avoir aussi des projets. Hein, c'est tout simplement de réussir notre vie, de fonder une famille, d'avoir des enfants, enfin toutes sortes de choses. Et puis, avec tout ce qu'il peut y avoir d'agréable tout autour, hein, parce que je pense que les uns et les autres, on ne veut pas forcément une vie médiocre, hein, une vie au rabais. Donc, on pense toujours au meilleur, et c'est ce qui donne finalement du sens à l'existence. Alors, les projets, mais vous avez remarqué une chose, c'est des projets que lui a formés pour nous. Et peut-être tout à fait différent de ce que nous avons caressé, de ce que nous avons rêvé. Hein. Le rêve, c'est très humain. Hein. Alors que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, c'est lui qui les a conçus. Et il les a conçus sur mesure, comme un tailleur, il n'y en a plus beaucoup de tailleurs, mais va vous faire un costume ou une robe pour les dames, hein, vraiment, ou un manteau. Voilà, mais c'est vraiment, c'est pas du prêt-à-porter, c'est vraiment à notre dimension, à notre taille. Parce que quand il dit qu'il connaît, mais il nous connaît dans notre personnalité, il sait qui nous sommes, mieux que nous-mêmes. Il sait pourquoi il nous a créés, il sait le but de notre vie. Il en connaît son aboutissement et il sait très bien que il est capable de nous doter de ceci, de cela, pour que nous puissions être dans le plan, dans son plan, et réussir. Vous savez, les échecs dans la nature humaine, c'est quelque chose de difficile, mais les échecs ne sont pas forcément des échecs. On peut vivre un échec sur le moment, et puis celui qui connaît les projets qu'il a formés, est capable de retourner les choses et de faire de ces échecs un succès. Ça, c'est extraordinaire. Nous, on pourrait peut-être pas. Hein. Bien qu'il y ait des gens qui, quelque part, ont cette capacité de rebondir dans les moments difficiles et de se sortir, quelquefois, de mauvais passes. Mais on peut dire que, avec Dieu, parce qu'on va s'en sortir, ça sera toujours en sortant la tête haute, non pas avec des compromissions, non pas avec des combines, non pas avec des choses qui pourraient faire honte et qui seraient honteuses. Non, Dieu est un Dieu de sainteté et il veut le meilleur pour nous. C'est pas le bien. Je dis bien, il veut le meilleur, c'est-à-dire le supérieur en quelque sorte. Alors, nous avons le contenu de ces projets. Il nous est dit de paix. Ah, la paix, c'est quelque chose que les hommes recherchent parce que est-ce qu'on peut construire en guerre ? On a des images tous les jours, et il nous est parlé de guerre ici ou là, etc., dans le Moyen-Orient, c'est permanent avec des milliers de morts et avec des villes qui ne sont plus que de la poussière, des cendres. C'est terrible, hein. On se dit au XXIe siècle, ça nous renvoie dans les périodes les plus terribles de l'histoire de l'humanité. C'est affreux, hein. Des gens qui vivaient paisiblement sont réduits maintenant à s'expatrier et puis à perdre tout. Hein. On voit ces pauvres gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui pleurent, parce que finalement ils n'ont pas de lieu, ils n'ont plus rien du tout. Et or Dieu nous dit, ce ne sont pas des projets de guerre, ce sont des projets de paix. Ça c'est important. Ce ne sont pas des projets finalement de malheur, mais des projets de bonheur. Et ça faut y croire. La foi c'est ça, hein, finalement. c'est de croire au meilleur, et que le meilleur, nous avons beaucoup de difficultés à l'atteindre parce que nous n'avons pas la capacité, mais il y a quelqu'un qui nous dit « je suis avec toi, je suis pas contre toi ». Est-ce que vous pensez que Dieu est contre nous? Non. Non, Dieu, dans la Bible, nous est présenté, Dieu se présente comme un Dieu qui n'est pas contre les hommes, mais qui est avec les hommes. Ça, c'est difficile à comprendre et difficile à entendre. Parce que quand on voit les réactions lorsque les gens souffrent, ou les gens sont mal pris, ils disent « mais c'est le bon Dieu, c'est injuste ». C'est la première réaction qu'ils ont. Est-ce que nous n'aurions pas pensé qu'il y en a un autre qui veut notre malheur? Et quelquefois, nous pouvons être aussi les artisans de notre propre médiocrité ou de notre malheur. Avec toutes les addictions qu'il peut y avoir, à travers le désespoir qui existe, à travers la désespérance, et on n'a pas besoin d'avoir 80 ans pour connaître ça. Même les gens, et quelquefois même des enfants ou des adolescents, sont déjà dans des situations profondément douloureuses. C'est terrible, c'est vrai. Alors, ce sont des projets de paix, parce que dans la paix, on construit, et on avance sereinement. Dans la paix, on peut réfléchir sans inquiétude, sans traumatisme, parce qu'on est en paix. Et c'est pas la paix extérieure. Celle-là, on en a besoin. Et c'est une paix intérieure. Il pourrait bien y avoir des ourangans, des tsunamis, des tremblements de terre autour de nous. Mais si à l'intérieur de nous-mêmes règne la paix, c'est tout à fait différent. Vous savez que Jésus est appelé dans la Bible le prince de la paix. Ouais. Alors est-ce que nous avons besoin d'un prince? Alors on a des ministres, on a des présidents de la République, on a des rois sur la terre, mais lui, il est le prince de la paix, et cette paix, il nous la donne. Je vous la donne, je vous donne ma paix, nous dit l'évangile de Jean, c'est Jésus qui le dit. Je vous laisse ma paix, ne craignez rien, je suis avec vous. Même si tout est contraire et que vous pouvez penser que finalement tout se ligue contre vous, non, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et tout cela dans un but, et là on a la révélation finalement du projet ou des projets de Dieu, il dit mais pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est ce que nous disions tout à l'heure, le passé c'est fini, le présent nous le vivons, nous le respirons, et c'est ce qui nous donne de vivre. Mais il est question de l'avenir. Ah ouais, l'avenir. Pour beaucoup d'hommes, dans notre temps comme dans les temps passés, l'avenir a été sinistre, il a été douloureux, il a été catastrophique. Il faut bien le dire, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire qui écrit les pages de la vie des hommes, et des nations même. Mais il est question de l'avenir. Et il y a des paroles dans la Bible où il nous est dit que celui qui se confie en l'Éternel trouve finalement des chemins tout tracés. C'est dans un psaume. Tout tracé. Qui a tracé ce chemin? Qui a montré la voie? Qui a ouvert finalement ce sentier? C'est moi, non? Parce que moi je regarde devant et je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. Enfin, je vous vois quand même. Mais toujours est-il que je ne vois pas finalement. Je peux avoir plein la tête des projets en disant je ferai ceci, je ferai cela, voilà. Mais non, on ne sait pas ce qui peut nous attendre. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a quelqu'un qui marche devant nous. Ouais. Faut pas laisser Jésus marcher derrière vous. Comme cet aveugle qui s'appelait Bartimée, il nous est dit, après avoir recouvré l'usage de ses yeux, il était aveugle. Et à un moment donné, il nous est dit, il suivit Jésus dans le chemin. Suivre, c'est que Jésus est devant. Pour quelqu'un qui a été aveugle et qui voit, là, c'est quelque chose d'extraordinaire, un grand miracle. Eh bien, Dieu est capable d'ouvrir nos yeux sur d'autres réalités que notre visible, notre palpable, ce que nous pouvons finalement toucher ou sentir. Non, Jésus, moi, je ne le vois pas. Mais je crois. Dans mon cœur, je crois. Il m'a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Si là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, vous connaissez la suite. Je suis au milieu de vous. Vous rendez compte, on est un peu plus que deux ou trois. C'est pas la foule ce soir. Mais néanmoins, on est un peu plus que deux. Et il nous fait cette promesse. Si deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque, à Dieu, en mon nom, eh bien, il nous est dit que cela leur sera accordé. Ce sont des paroles de la Bible. Vous pouvez prendre votre Bible ce soir ou demain, et puis dans les jours qui viennent, et vous trouverez ces paroles. Donc, pour vous donner, c'est un don, c'est pas à acheter. La religion a faussé quand même les choses, parce que tout est monnayable et tout est achetable. Non. Jésus est déjà le don de Dieu, fait aux hommes, à l'humanité. Et il y a un mot, il y a un verbe qui qualifie bien finalement l'amour de Dieu, c'est de donner aux hommes. Il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à négocier, il n'y a rien pour parlementer, pour essayer d'avoir ceci ou cela. Non, c'est donner, mais au prix d'une chose. Ce n'est pas des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est tout simplement au prix de notre confiance, de notre foi. Je vous le dis, je ne vois pas Jésus, mais je sais qu'il est là au milieu de nous ce soir. Au milieu de nous. Non seulement il est au milieu de nous, mais si vous voulez l'accueillir, mais il peut être dans votre cœur. Et vous allez voir que ça transforme la vie, la joie, la paix, le bonheur. Ce sentiment que on est peut-être venu avec des fardeaux qui nous écrasent, on est peut-être venu après quelques jours ou une semaine de larmes, et puis de désespoir, de toutes sortes de choses. Mais le Seigneur est là pour nous dire « Viens vers moi, approche-toi, et moi je te donnerai ce que tu as besoin, parce que sache que j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir, une vie qui va changer, et de l'espérance, dans un monde de désespoir. » Je trouve que c'est beau ça. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la parole qui, il y a 40, presque 50 ans maintenant, m'a amené à vraiment découvrir Jésus. Vous vous rendez compte? Alors, vous pouvez estimer mon grand âge maintenant, hein. Je vous ai donné une petite, voilà. Mais toujours est-il que j'étais un tout jeune homme, et cette parole, c'est vraiment la parole que j'ai reçue dans mon cœur, où Dieu m'a donné ça pour moi, mais je le partage avec vous. Parce que pour tous les temps, c'est pour tous les hommes. Mais moi, pour moi, ça a été le bouleversement de ma vie. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Et ça, je ne peux pas vous dire que quand j'avais 19-20 ans, je ne pouvais pas vous dire à ce moment-là quelle serait ma vie. Ben maintenant, vous la connaissez un peu, je suis au milieu de vous. Hein. Et ça, ce n'était pas la trajectoire que j'avais prévue. Ça, c'est clair. Mais moi, je peux dire aujourd'hui que Dieu m'a donné le meilleur dans ma vie. Ah oui. Non, mais c'est pas du commerce que je suis en train de faire. Hein. C'est pas la publicité, ceci, cela. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je ne sais pas qu'un jour, bien voilà, les choses s'orienteraient dans telle et telle dimension, tant sur le plan de ma vie, entre guillemets, professionnelle, parce que ce n'est pas une vie professionnelle que j'ai. Hein, c'est plutôt vocationnel. Mais toujours est-il que le reste est accompagné dans tout ce dont je pouvais avoir besoin en tant qu'homme, comme vous. Et Dieu me l'a donné, mais il l'a bien donné. Et aujourd'hui, eh bien, nous n'avons jamais regretté, finalement, d'avoir tendu la main en disant « Seigneur, je prends un avenir et de l'espérance. » Alors vous me chercherez. Est-ce que nous voulons le chercher ce soir? On va avoir un petit moment de prière très court. Mais peut-être nous pouvons chacun dans notre cœur dire « Seigneur, voilà, j'ai entendu ta parole ce soir et vraiment il y a quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose qui, je voudrais que ça se réalise. Je voudrais que, eh bien, tu me parles, tu me montres, tu, véritablement, eh bien, tu fais quelque chose, vous me chercherez, et parce que vous me cherchez avec foi, eh bien, vous me trouverez, je ne suis pas si loin de toi, je suis auprès de vous, je suis au milieu de vous, eh bien, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. La seule communication qui vaille entre l'homme et Dieu, c'est la prière. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est, prière? Est-ce que c'est répéter, répéter, répéter? Jésus nous dit, ne vous imaginez pas qu'à force de parole, vous serez exaucés. Hein, ce sont des vaines redites. Mais la prière, c'est beaucoup plus simple. Dans le ciel, j'ai un père. Dans le ciel, j'ai un ami. Il s'appelle Jésus. Dieu est mon Père, notre Père qui est aux cieux. Et puis, ce Père et cet ami, finalement, eh bien, je peux communiquer. Je le répète, je ne le vois pas, mais je sais. Et il m'a fait des promesses. Et si je lui demande quelque chose, il entend. Dieu n'est pas sourd, hein? Non, c'est lui qui a fait l'oreille. Ah, vous vous rendez compte? Le créateur de l'oreille serait sourd? Ce serait quand même un comble, hein? Alors, il n'est pas sourd. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez. C'est-à-dire que quelquefois, eh bien, notre cheminement existentiel, il y a toutes sortes de chemins, à droite, à gauche, il y a des voies sans issue, il y a des ronds-points. Alors on tourne en rond là, si on ne sait pas quelle route prendre. Il y a des sens interdits. C'est comme le code de la route, vous savez, les panneaux de circulation. Et quelquefois on se dit, mais Ma vie, c'est un labyrinthe, je ne sais pas. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? J'écoute ici, j'écoute là, on me dit de faire ceci, on me dit de faire cela. Mais vous savez que les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Quelquefois, on a reçu des conseils, il valait mieux peut-être pas les écouter. Hein. Il y en a des bons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des bons. Alors, vous me chercherez. Seigneur, je te cherche. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Je voudrais que, finalement, eh bien, tu répondes aux besoins profonds de mon cœur. Ouais. Il y a des choses superficielles dans l'existence. Des choses, des banalités. On en a besoin. Bon, on les consomme. Comme on est dans un siècle de consommation. Mais il y a des choses qui sont enfouies au plus profond de nous-mêmes. Que nous ne pourrions peut-être même pas mettre des mots sur notre besoin parce que c'est tellement nébuleux, c'est tellement confondu dans tout cela. Mais à ce moment-là, il y a tout un cheminement et c'est petit à petit qu'on s'approche de Dieu. Il y a des gens qui ont des révélations subites comme l'apôtre Paul, vous savez, sur le chemin de Damas. Boum, voilà, le ciel s'ouvre. Et ça a été quelque chose. Hein. Il y en a eu comme ça. Et il y en a encore aujourd'hui des gens qui, voilà, d'un seul coup, formidable. Ils avaient quelque chose au fond du cœur, qui cherchaient désespérément à comprendre pourquoi ils étaient comme ça, et ce dont ils avaient besoin, et à un moment donné, ça leur vient comme ça. Moi, je l'ai vu, hein, dans le ministère pastoral, j'ai eu des hommes, des femmes, des jeunes, qui quelque part, eh bien, ont entendu une première fois l'évangile, et immédiatement, ben, il s'est passé quelque chose. Et puis, on a connu d'autres personnes, jeunes ou moins jeunes, qui quelquefois, eh bien, ont attendu des années, et des amis qui venaient, moi je me souviens quand j'étais pasteur à Angers, ils sont venus, je crois qu'on a eu un record à un moment donné, mais on l'a eu pendant des années, je crois 30 ans. Cette dame venait tous les jeudis, elle était toujours là tous les jeudis, alors on disait, bon ben voilà, on continue, hein. On ne bouscule pas les gens, hein. Les gens ils font ce qu'ils veulent, et on n'est pas là pour dire, alors vous en êtes, etc., etc., non, non, faut laisser les gens évoluer, parce que c'est pas moi, c'est le Seigneur qui appelle. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Quand on dit aux gens, bah alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avancez pas, hein, vous voulez pas ceci et cela? Non. Faut laisser les gens aller à leur mesure. On est bien d'accord. Et on s'est aperçu qu'un jour, au bout de 25, 30 ans, oui, hein, elle est venue nous voir. Elle nous a dit, bien écoutez, moi, je voudrais maintenant m'engager avec le Seigneur. Ben, on a dit, Seigneur, ben, heureusement, hein, on a été patient, mais bon, c'est une patience tout à fait remplie de compassion. Mais je me dis, merci Seigneur. Au bout de 30 ans, cette personne, maintenant, eh bien, elle veut te suivre, elle nous l'a dit. Et elle s'est fait baptiser. C'est formidable, hein. Ah oui. Alors bon, faut pas bousculer les gens. Moi, je suis jamais partisan de dire, allez, faut y aller. Parce que bon, vous savez, c'est comme un père de famille ou une maman, avec un petit enfant, ça vient tout seul, la marche, hein. Hein, l'enfant, il va marcher, il va tomber 10 fois, 20 fois, 100 fois, hein, il va se faire des coupures, des égratignures, etc., etc. Mais le papa, il va pas prendre l'enfant en disant, tu cours derrière moi et puis je te prends, hein. Puis, bah, le pauvre gamin, il va être traumatisé, il va plus voir le marcher tout de suite, hein. Ah oui, bah oui, avec le Seigneur, c'est la même chose. Il sait qui l'on est. Il connaît notre sensibilité, il connaît nos craintes, il connaît nos peurs, il connaît nos faiblesses, il connaît toutes nos vulnérabilités, et il est un bon père. Eh oui. Alors, vous me chercherez, vous me trouverez, et c'est merveilleux. De trouver le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Autant qu'on puisse s'en souvenir, même si les années ont passé, moi c'était le plus beau jour de ma vie, figurez-vous. Ouais, je suis pas rentré dans les ordres, hein. Je suis resté normal. Et je suis encore normal, vous pensez, non? Oui, vous me trouvez normal? Oui. N'hésitez pas à me le dire en sortant, hein, en disant, Alain, il n'est pas tout à fait bien. Hein. Mais bon, toujours est-il que je vous remercie, en tous les cas, d'être patient avec moi. Mais bon, toujours est-il que quelque part, eh bien, il y a toujours quelque chose. Et ça, c'est un jour de rencontre qui se fait aussi, quelquefois dans un instant, dans un moment, mais qui se développe après un temps, voilà. Et c'est vrai qu'il y a la paix qui vient à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des gens qui sont venus me le dire, qui me disent, mais avant d'avoir rencontré Jésus, le Seigneur, d'avoir entendu l'Évangile et de croire à l'Évangile, il y avait une terreur en moi, c'est que j'avais toujours peur de la mort. Ouais. Ça m'obsédait, j'en étais véritablement malade à chaque fois qu'il y avait cette pensée ou qu'il y avait des circonstances. Parce que les circonstances sont aussi tellement fréquentes, hein, où on parle de mort, où il y a des gens qui, voilà, c'est ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que peur de l'accident, peur de la maladie, peur de ceci et cela, C'est pas possible, hein, c'est pas la vie. Hein. Et une chose qui est certaine, c'est que souvent les gens m'ont dit, eh bien maintenant, je n'ai plus peur du tout. Voilà, je n'ai plus peur. Il y a des peurs qui sont préservatrices. Parce que pas avoir peur quand le feu se met au feu rouge, vaut mieux s'arrêter, hein, quand même. Vaut mieux. Mais bon, toujours est-il que les gens sont dégagés, les gens sont affranchis, ils n'ont plus peur, ils sont dans la paix. S'il m'arrive quelque chose, moi je crois que je traverserai cette vallée difficile, mais le Seigneur est avec moi. Et derrière, finalement, quelquefois l'ombre, et parce qu'il y a l'ombre, ça cache la lumière, parce qu'à partir du moment où il y a une lumière, à partir du moment où il y a de l'ombre, c'est qu'il y a une lumière. Et c'est le psaume 23 de David, hein, « L'Éternel est mon berger ». Il veille sur moi, il m'accompagne, il me conduit. Vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, pas avec votre tête, pas cérébralement, pas avec la matière grise, pas en faisant des études théologiques ou doctrinales, non, des études religieuses, si vous non, même pas, non, c'est le cœur, ce que vous avez remarqué, hein. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Aimer de tout son cœur. C'est une expression que nous avons dans toutes les langues, hein, en tous les cas en français c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a cette intensité, il y a ce désir d'intimité, il y a ce désir de communion, il y a ce désir de vérité, d'authenticité, de véracité, de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur quand on dit ça à quelqu'un. Je pense que c'est quand même des paroles qu'on n'utilise pas tous les jours et pour tout le monde. Parce qu'autrement, ça serait... Mais en tous les cas, on peut le dire à nos enfants, on peut le dire à notre mari, à notre femme, enfin bon voilà. Et on peut le dire aussi au Seigneur. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et il y a quelquefois des moments à partager dans un temps de prière ou à travers les beaux cantiques que nous chantons et qui est l'expression que nous disons au Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu as fait du bien à mon cœur, tu as fait du bien à mon âme, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu as fait tant de choses pour moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et il est bien dit, je me laisserai trouver. Comme si Dieu allait s'abandonner, de dire, eh bien voilà, parce que Dieu ne joue pas cache-cache, mais je me laisserai trouver par vous. Tout simplement, parce que Dieu n'est pas celui qui fuit. Celui qui esquive la rencontre avec sa créature, il veut nous sauver, il veut nous bénir, il veut nous guérir, il veut pardonner nos péchés, il veut que nous soyons heureux, il veut que nous ayons la paix, que nous ayons la joie, mais la vraie joie, pas une joie frivole qui est là aujourd'hui et puis qui demain va passer, que voilà, nous allons oublier et que nous allons replonger finalement dans la tristesse. C'est pas ça. Non, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Et c'est quelque chose de magnifique. Ce qu'on appelle la conversion. Non pas changer de religion, mais véritablement changer de vie. Et là, nous voyons ce Dieu que je ne connaissais pas. Ce Dieu dont la religion m'avait parlé, mais qui ne m'avait pas forcément interpellé. Ce Dieu, je l'ai trouvé dans ma vie, sur mon chemin. Et là, il y a des choses que je ne comprenais pas, des choses qui étaient une véritable complexité pour moi. Je me dis, mais Dieu, pourtant à côté, il y a ceci, il y a cela. Oui, parce que les hommes ont fait de Dieu ce qu'ils ont bien voulu. Et celui qui nous parle dans la Bible, il parle de lui-même. Voilà. Et il nous dit, naturellement, « J'ai formé des projets sur toi pour que tu aies de l'avenir, de l'espérance. » Je termine avec simplement une toute petite leçon que nous avons dans Luc chapitre 9. C'est simplement, ce sera la conclusion, si vous voulez. Toute simple. Et la complémentarité de notre message que nous avons vu il y a un instant. Parce qu'il est beau ce message, me semble-t-il. Alors, Luc chapitre 9, verset 23. Il est dit ceci. Puis Jésus dit à tous, donc, voilà, c'est le « vous » que nous avons trouvé dans Jérémie. Je vous bénirai. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si, en d'autres termes, si quelqu'un veut venir et veut me suivre. Alors, il y a tout simplement un acte de foi et d'obéissance. Oui, je dis bien de foi parce que je crois, et d'obéissance parce que ce que je viens de croire, ce que je crois, demande un acte gratuit de ma part, mais que je dois consentir. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est peut-être plus difficile. Renoncer à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple, je vais le dire d'une manière très accessible à la compréhension de chacun. C'est-à-dire que je reste avec ma personnalité, ce que je suis, parce que Dieu nous connaît. Il n'est pas là pour nous déformer. Il n'est pas là pour nous donner de devenir eh bien un autre personnage avec de visages, de langages. Non, au contraire, c'est une unité qu'il veut faire de notre vie. Alors, il dit ceci, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, tout simplement, c'est que maintenant, celui qui va diriger ma vie, ce n'est plus moi, c'est lui. Il renonce à lui-même, à ses mauvais désirs, ses pensées qui ne sont pas toujours très bonnes, quelquefois les défauts, à travers une volonté qui s'affirme, mais pas toujours dans le bien, plutôt dans le mal. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à notre égoïsme. Je ne pense plus tant à moi-même, mais aussi penser aux autres. Ça, c'est l'égoïsme. C'est renoncer à soi-même, c'est quelquefois, lorsque je suis mal pris dans certaines affaires, je recours au mensonge. Maintenant, je dis la vérité. Je me tiens dans la vérité. Renoncer à soi-même, c'est peut-être parfois toutes ces petites combines, toutes ces petites choses dans lesquelles j'ai appris à gesticuler, à finalement faire l'acrobate. Ouais, je dirais bien maintenant, Seigneur, donne-moi un cœur droit. Donne-moi d'aimer la justice. Donne-moi d'être miséricordieux parce que j'ai un tempérament quelquefois colérique, impétueux. J'aime bien dicter aux autres ce que moi je voudrais qu'ils fassent. Mais maintenant, non, c'est plus ça, Seigneur. C'est toi qui vas prendre les rênes de ma vie. Je renonce à moi-même. Et je te demande, Seigneur, parce que j'y arrive pas. C'est vrai, hein. J'y arrive pas. Je te demande que toi, tu prennes la direction de mon cœur, de mon tempérament, de ma volonté, de mon caractère. Et que tu me donnes, Seigneur Jésus, d'être doux et humble comme toi tu l'es. De me donner d'aimer comme toi tu aimes. Comme tu m'as aimé. Seigneur, je renonce à moi-même parce que on m'a fait du mal et j'ai du mal à pardonner. Comprenez ce que ça veut dire, hein? Mais donne-moi de pardonner comme toi tu m'as pardonné, comme tu l'as dit à la croix, quand Jésus était à la croix. Première parole qui est tombée de la croix quand Jésus était crucifié. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et je n'ai pas toujours su ce qu'il fallait faire. J'ai plus su faire le mal que de faire le bien, renoncer à soi-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ah, la croix, il n'y a plus de croix maintenant. C'est fini. Mais la croix, c'est Jésus qui est monté. Il est monté à ma place. Et il a fait ce que je ne pouvais pas faire. Puisque on a parlé de la première parole de Jésus à la croix. La dernière parole de Jésus à la croix, ça a été « Tout est accompli ». Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, à croire. Pas à faire, pas à faire des efforts, mais à faire l'effort de croire, tout simplement, et qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire que c'est tout simplement la foi que je mets en Jésus, parce qu'il a fait tout à ma place. C'est ce qu'on appelle le Rédempteur, celui qui s'est substitué à ma vie. J'étais perdu, je suis sauvé. Et je suis sauvé non pas à cause de mes bonnes œuvres, mes qualités, ou de toutes sortes de choses, je suis sauvé parce que Jésus a accompli, finalement, tout est accompli, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Seigneur, te suive où tu veux que j'aille? Eh bien, selon les projets qu'il m'a déjà dévoilés, que nous avons vus. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Alors là, c'est rédhibitoire. Celui qui veut sauver sa vie à tout prix, il va la perdre, nous dit Jésus. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Donnez notre vie, comme Jésus a donné la sienne pour moi. Moi, je lui retourne et je lui dis, moi, je te donne ma vie maintenant. Ça, on appelle ça la conversion. Le choix de la conversion. Je l'ai dit et je le redis, ce n'est pas de changer de religion, mais c'est de changer de vie. C'est de naître de nouveau à une vie nouvelle. Il, tout simplement, et car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Oui, la sauvera. Et que servirait-il à un homme, je poursuis, à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Il y a des hommes dans l'histoire, mais pas notre histoire à nous, parce que nous sommes petits. On n'a pas des ambitions, hein, comme les grands conquérants, les grands impérators, les empereurs, les rois et toutes sortes de choses. Alors je vous dis, hein, on en a quelques-uns même dans notre pays, dans l'histoire. Hein. On parle de Louis XIV, on parle de Napoléon. Il y en a qui voulaient conquérir, même au siècle dernier, il y avait Hitler, il y avait Staline, il y avait Mao, il y avait ils voulaient le monde entier. Hein. Ils pensaient que finalement, eh bien, leur règne, un certain en particulier, un règne de 1000 ans, pour copier un peu l'histoire de l'Apocalypse. Là, hein. Ouais. Mais ça s'est fait non pas par l'amour, mais ça s'est fait par le sang. Et des atrocités, des choses abominables dont on ne pourrait même pas penser que ça vienne à l'esprit des hommes, dans la cruauté, dans la méchanceté. Que servirait-il à un homme de gagner le monde? Et même s'il gagnait le monde, même s'il était l'homme le plus grand et qui dirigerait finalement cette planète, mais à quoi lui servirait-il s'il se détruisait, se perdait lui-même? Et ça se finit toujours comme ça avec tous ceux qui nous ont précédés, hein, tous ces gens, ces mégalos, ces dictateurs. C'est terrible. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Et moi, j'ai pas honte de Jésus. J'ai pas honte de parler de Jésus. Même d'en parler, si on me pose des questions, je réponds. Et je dis que Jésus, il est formidable. Il est le meilleur ami. Il aime les hommes qui se repentent de leurs péchés, les hommes qui pleurent sur leur misère morale, les hommes qui ont ce sentiment qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais j'ai pas honte des paroles de Jésus. J'ai pas honte des paroles de Jésus quand il nous dit qu'il y a le bien et le mal, et qu'il faut fuir le mal, et qu'il faut à ce moment-là que Dieu nous remplisse de la personne de Jésus pour faire le bien. J'en ai pas honte, hein. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un de ceux qui sont ici, non, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. C'est une belle parole pour vous, ça, les uns et les autres. Oui. Parce que finalement, on est rentré dans cette salle, dans les conditions qui sont les vôtres ou les nôtres, mais on peut repartir sauvé. Si simplement, il n'y en a aucun qui sont ici, Jésus parlait pour son temps, avec ce qu'il a pu enseigner, il y en a de ceux, ils ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Ben, le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose, un petit diplôme sur un papier, hein, je vais aller au ciel, etc., etc. Non, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, il s'inscrit le jour où je me repens de mes péchés. Je choisis Jésus-Christ, non pas une religion, mais Jésus-Christ, ça s'appelle la conversion. Et le jour où je me laisse véritablement transformer, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, quatrième étape, le Seigneur nous remplit de son esprit. Eh oui, l'esprit de Dieu à la place de mon esprit à moi. Il va tout me transformer, me changer. Repentance, conversion, nouvelle naissance et être rempli de l'esprit. Paul le dira d'une manière admirable et je termine. Il dira ceci, si aujourd'hui je vis, chacun d'entre nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelle belle parole. Extraordinaire, formidable. Est-ce que vous voulez, alors je sais que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez fait déjà depuis longtemps, mais peut-être pour les amis qui nous rejoignent, est-ce que vous voulez que Jésus vive en vous, vous accompagne, parce qu'il a formé sur vous des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Seigneur, je le veux. Et on va le demander ensemble, silencieusement, chacun au fond de notre cœur. D'accord ? Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Parce que je sais pertinemment que la parole de Dieu, elle suscite la foi au fond de mon cœur. C'est elle la semence. C'est elle véritablement la bonne graine. Et cette parole, Seigneur, eh bien moi je la reçois. Et je la prends, je la garde et je te demande, Seigneur, que ce que tu m'as promis dans ma vie d'aujourd'hui, la vie de demain, eh bien, tout cela, Seigneur, tu connais l'avenir, tu connais mon devenir surtout, et tu connais en effet, Père éternel, le besoin d'espérance, espérance pour les choses de cette vie terrestre, et l'espérance pour cette vie céleste, c'est-à-dire l'avenir, la vie éternelle, la vie en effet glorieuse dans le ciel et avec Jésus. Seigneur, tu bénis mes amis ce soir. Tu leur fais du bien. Tu travailles leur cœur. Et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, chacun d'entre nous, nous puissions te dire, mais Seigneur Jésus, avec un tel programme, avec une telle proposition, mais Seigneur, moi je le veux. Je le veux, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous bénis et tu orientes notre volonté à choisir le meilleur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.